Le Gros Cast, le podcast de Gros Pixels. Des pixels et du podcast.
Bonjour! Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième numéro du Gros Cast, le podcast de Gros Pixels. L'attente a été longue, je le sais, depuis notre premier numéro, mais nous revoilà, fiers et loquaces, prêts à passer quelques temps avec vous. Confier bébé à mère grand et maman à son amant, le Gros Cast est de retour. Au programme de cette émission, un retour sur le jeu de Technos, Karate Champ, une petite pause musicale, une discussion à cœur ouvert sur la présence du jeu vidéo dans les autres médias, et enfin un gros mix de Derrière les fagots pour se quitter en musique. Aux commandes, MTF, votre hôte au cours de cette émission, et j'ai le plaisir de recevoir avec moi, Karl. Bonjour Karl.
Salut Motofeu.
Comment ça va?
Bah écoute, tu m'as déjà vu aller mal.
Ah, en forme à ce que je vois, très bien, très bien, très bien. Et notre deuxième invité, Chapeau Paye. Salut Chapeau Paye.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
Alors, Chapeau Paye, commençons directement. Je m'adresse à toi, car tu es l'auteur de l'article à présent accessible sur le site sur Karate Champ. Et j'aimerais que l'on revienne, pour commencer, sur le côté historique, pourrait-on dire, du jeu. Car comme tu l'indiques dans ton article, il se pourrait très bien, même si cela est sujet à discussion et on y reviendra sans doute au cours de cette émission, il se pourrait très bien donc que Karate Champ soit le premier, sinon l'un des tout premiers versus fighting de l'histoire du jeu vidéo. Alors, la question que je me pose, c'est lorsque tu as découvert le jeu en salle, est-ce que tu avais conscience de l'importance de Karate Champ?
Alors, je n'avais pas conscience du caractère novateur de Karate Champ, hormis pour le fait qu'il comportait deux joysticks au lieu d'un joystick et de quelques boutons. Je l'ai connu en 1985, on va dire, donc j'avais 10 ans à l'époque, dans la salle de jeu à côté de chez mes parents. Donc je n'avais pas encore, j'avais certes fréquenté d'autres salles d'arcade, bien que cela m'était totalement défendu, mais des lieux de perdition.
Des lieux de perdition. C'est pas bien. Et quand tu penses que cet homme-là est censé donner une bonne éducation à nos enfants,
je leur dis de pas le faire.
Non, mais c'est
une honte. Ne faites pas comme
c'est
moi,
une
les
honte.
Enfants. C'est très mal. On finit l'éducation nationale.
Voyons, Samen, on finit l'éducation nationale.
Et donc,
voilà. On finit fonctionnaire.
Et ce qui fait que j'avais pas non plus énormément de points de comparaison, et il existait déjà des jeux dans lesquels deux joueurs pouvaient s'affronter, pas de manière brutale, hein, par exemple des jeux de sport, des jeux de foot. Donc non, pour moi, je ne m'étais pas dit oh mais c'est la première fois que l'on peut affronter un autre adversaire dans un sport d'art martial.
Est-ce que tu te rappelles si la borne avait du succès dans la salle où tu allais ou
Honnêtement, je pourrais pas te dire. Non, elle en avait pas plus que les autres.
C'était quoi les têtes d'affiche à l'époque?
Ah, alors là, écoute, moi je me souviens qu'à l'époque c'était non, honnêtement, je pourrais pas te dire. Hein, à part des pole positions, pas Galaxian mais Exarion, ce genre de jeu, des shoots, Time Pilot, ça avait du succès. C'est vrai qu'avec Karate Champ on entrait dans un nouveau style, mais moi je m'étais absolument pas fait cette réflexion. Alors c'est vrai que j'ai écrit dans l'article que ce serait sans doute le premier jeu de versus fighting, en tout cas concernant les arts martiaux.
Bon d'accord, c'est bon.
Hein, parce qu'effectivement il y a une borne en 1976 de Sega qui s'appelle Heavyweight Champ, qui est un jeu de boxe. Et qui lui, alors de la même manière, avait un périphérique en fait assez curieux. C'était une grosse poignée que l'on pouvait lever, baisser, je crois qu'on appuyait dessus, on l'enfonçait pour donner les coups.
Donc Sega, précurseur encore une fois en arcade.
Oui, 76. Alors on a eu une autre version. Il y a eu une autre version de Heavyweight Champ qui est sortie, je dirais vers 87 à peu près, qui était plus élaborée. Là cette fois chacun avait deux manettes.
Ouais.
Et même chose, on levait, on baissait, on appuyait, on enfonçait. Et bon,
c'est une borne absolument géniale, surtout dans sa version double joueur. Bon, voilà. C'est un monstre, hein, ça prend un petit peu de place, mais c'est vraiment très sympa, quoi. C'est si Punch Out avait été adapté différemment, puisqu'il a déjà été adapté sur ce genre de périphérique, c'était pas mal. Sachant que si on digresse encore une fois sur les jeux de boxe, ce qu'il faut pas oublier, c'est l'adaptation de Punch-Out sur la borne absolument énorme avec les deux poignées sur vérin qui demandaient de vraiment frapper complètement pour pouvoir jouer. C'est une borne absolument géniale que j'ai eu la chance de croiser dans ma prime jeunesse et que je ne désespère pas de recroiser un jour.
Moi également, je l'avais croisé. Alors c'était à Tours, parce que c'était une machine imposante et évidemment c'était pas n'importe quelle petite salle de jeu de quartier qui pouvait se permettre d'avoir,
bien sûr,
pour une raison de place, puis pour une raison de coût également et de rentabilité. Moi c'était alors à Tours, là où habitaient mes grands-parents, il y avait une avenue de Gramont, pour ceux qui connaissent, il y avait une grande salle de jeu. Et c'est dans cette salle, j'avais vu notamment cette borne-là, mais si tu veux, après elle avait été remplacée par une borne comme Mad Dog McGree.
Ouais.
Tu vois, imagine la bête, voilà. C'était réservé à des salles imposantes et bien achalandées.
Ça prenait de la place, mais ça avait un charme indéniable et ça attirait immédiatement l'œil quand tu rentrais dans la
salle. Et puis même au niveau du jeu, tu transpirais comme un malade parce que t'étais obligé de donner de ta personne.
Il y avait encore un petit côté fête foraine, on va dire, un peu à l'américaine dedans, où on faisait vraiment un effort physique pour progresser.
Exactement. On faisait un effort physique et puis il y avait des gens autour de toi qui te regardaient faire. Et là, c'était la classe.
Ah,
c'est arrivé.
C'était la star.
C'était toi l'attraction.
Alors, Karl, il me semble que toi aussi, tu as connu Karaté Champ à sa sortie à l'époque.
Je suis pas sûr que ce soit à sa sortie, parce que j'ai souvenir de la même salle. Pour t'expliquer, c'est l'époque où j'habitais dans la région normande, et c'était l'époque où on pouvait encore laisser ses enfants à la salle d'arcade du centre commercial pendant qu'on faisait les courses. Et donc, moi, j'avais cette chance de me faire abandonner dans cette salle avec 5 ou 10 francs. Et puis après, tu jouais à différents jeux. Et c'est vrai que Karaté Champ, c'est un jeu dans lequel j'ai mis quelques pièces de 1 franc.
Ouais.
Je pense pas que ce soit à la sortie en 84. Je pense que c'était plutôt aux alentours de 87, puisque j'ai souvenir de Double Dragon de la même salle. Sachant que dans cette salle, c'est une salle où j'ai découvert mes plus gros coups de cœur vidéoludiques, que ce soit Operation Wolf, que ce soit Double Dragon, que ce soit Shinobi, que ce soit Hippodrome, auquel j'ai mis énormément de sous dedans aussi.
Le fameux Hippodrome.
Le fameux Hippodrome. Et dans cette salle avait aussi un truc absolument génial qui, je crois, est fait aussi par Sega, qui est un écran rétro-éclairé, une simulation de Baltrap avec des vrais fusils de Baltrap et un écran absolument énorme pour l'époque.
Ça
s'appelait Kill Shooting et c'était vraiment très sympa, quoi. Donc,
connu aussi ça.
Ouais, et donc c'est dans cette salle où même le premier Star Wars j'ai croisé, et un jeu que j'aime beaucoup aussi dont j'arrive pas à me rappeler le nom, Laurent l'a chroniqué sur Gros Pixel, je crois que c'est Empire City 1931, qui est aussi un jeu dans lequel j'ai mis énormément de sous. Donc c'est vrai que
c'est le jeu avec un viseur, c'est
tout
ça,
à fait, oui,
qui parcourt des immeubles,
de la Prohibition,
voilà,
avec
c'est ça,
toute cette image de film noir des années
c'est du Tracy,
ouais,
et
voilà.
Et tu te protèges avec un pan de ton manteau de temps en temps.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et ce jeu est absolument génial. Donc, bref, cette salle, c'est là où j'ai découvert énormément de choses, et je suis tombé sur Karaté Champ, auquel j'ai mis aussi beaucoup de pièces de 1 franc dedans, attiré par le principe de versus fighting, déjà, et puis, parce que j'aime aussi beaucoup les arts martiaux, depuis tout petit. Mais c'est vrai que le fait, t'arrives devant la borne, tu vois une borne avec deux joysticks, t'essayes de comprendre comment ça marche, le système de jeu est particulièrement intuitif, donc c'est vrai que t'as envie de persévérer.
Et au final, est-ce que tu as réussi à faire des jolies choses alors sur Karaté Champ? Parce que tu dirais que la prise en main est malgré tout très accessible pour un débutant ou...
Écoute, je t'avoue que depuis ces années-là, j'ai dormi. donc, si je veux me la péter, je dirais, bien sûr, j'ai fait le tour avec juste une pièce de 1 franc. Enfin, pour qui me prends-tu? Mais je t'avouerai, je sais plus. Je me rappelle que c'était quand même assez difficile, du haut de mes 9-10 ans. Et puis, mais voilà, quoi. C'est vrai que C'est vrai que pour que je m'en souvienne aujourd'hui, c'est que c'était quand même un jeu vraiment vraiment important pour l'époque, même s'il était un peu dépassé graphiquement par rapport à beaucoup de titres à l'époque où je l'ai découvert.
Ouais.
La mécanique de jeu était tellement intéressante, si tu t'intéressais aux arts martiaux et au sport en tant que tel,
bien sûr.
Que tu ne pouvais que avoir l'œil attiré et avoir envie de l'utiliser.
Alors effectivement, tu avais à l'époque, moi donc à 10 ans, le monde du karaté, enfin c'était quelque chose quand on est gamin, c'est quelque chose qui t'impressionne, qui te fascine. Donc pouvoir incarner.
J'ai pas vérifié les dates, mais est-ce que c'était plus ou moins à l'époque de Karate Kid, non?
Ça doit être ça, Karate Kid, ouais, ça doit être 85, je dirais peut-être. Hein, donc oui, donc on est, 85, 86, oui, on est dans
voilà, en pleine mouvance ouais, de retour sur le monde.
De la pose du héros.
Oui, tout à fait.
Et là, en plus Karate Champ, tu avais des voix digitalisées.
Oui.
Hein, ça aussi, c'était quelque chose, les begin, les machins, les bruits, enfin les cris que poussaient les combattants étaient assez réalistes. Il y avait eu tout un effort de fait sur le plan du son, du bruit des coups portés, qui, ce que j'explique dans l'article, qui te donnait néanmoins un sentiment de puissance. Et quand tu manipulais ces deux joysticks, hein, parce que les joysticks de l'époque, c'était pas les joysticks qu'on peut avoir sur les bornes Astro, là, bien beau, bien blanc, avec une grosse boule verte qui tourne tout seul, il fallait quand même, il y avait un petit effort à faire pour les pousser bien à fond.
Mais bien donc sûr, monsieur, mais c'est normal. Aujourd'hui, nous élevons une génération gamer à la facilité.
Absolument.
Entre le Miyamoto qui te dit qu'il faut juste un seul bouton pour pouvoir travailler, plus le jeu sur iOS. Mais mon Dieu, mais où allons-nous?
Et donc tu fournissais un effort, tu vois. Tu fournissais un effort. Alors quand tu avais fourni cet effort et que tu avais parfaitement orienté les joysticks pour faire un coup de pied sauté en pleine tête de l'adversaire, là, c'était bizant, c'était royal.
C'était donc, la récompense.
C'était la récompense, là, bon, etc. Et que tu avais le juge qui disait full point. Alors c'était quelque chose de vraiment motivant pour le joueur.
Alors, il y a quelque chose qui m'a fait très rire dans ton article, Chapeau Paye.
Oui.
C'est quand tu parles du bonus stage avec le taureau.
Ah.
Est-ce que tu t'en rappelles, Carl, aussi?
Oui, bah oui, mais c'était là aussi que c'était intéressant dans ce jeu. C'était le principe des bonus stages autour où t'avais quand même, tu te retrouvais complètement, la première fois que tu tombais là-dessus, tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te faisais étendre, parce que t'avais pas compris ce qui se passait. C'était une des premières fois où tu tombais sur ce genre de truc quand t'es en arcane, puisque les bonus stages devaient déjà exister dans d'autres types de jeux. Mais là, tu t'y attends pas, quoi. C'est vrai que les premières fois, tu te fais étendre.
Pour un jeu de combat, peut-être que c'était effectivement la première fois. C'est quelque chose qui sera repris depuis dans les grandes sagas
dans Street Fighter, notamment.
De combat, dans Street Fighter, dans Mortal Kombat, etc. Peut-être que Karate Champ a introduit ce principe aussi, je ne sais pas.
Alors le principe des bonus stage n'était pas nouveau, hein, puisque tu avais déjà dans Galaga, il y avait déjà ça, mais effectivement là c'est quelque chose d'assez différent. On ne combattait pas, c'était plus un adversaire, mais c'était voilà soit des objets à éviter ou à frapper dans le meilleur des cas.
Parce
ou
que
bien,
dans
bien
Galaga, tu restes dans la même mécanique.
Et oui, ce taureau, bah moi j'ai mis voilà, on est en 2012, bah j'ai mis un certain temps.
Ça c'est de la replay value, hein.
Si tu veux, parce que j'ai mis un certain temps à le battre. Alors déjà parce que je sais pas pour toi Karl, mais moi sur la borne, il y avait pas le flyer. Donc les coups pour les apprendre,
c'était l'époque où tu avais que de la borne générique et
voilà,
puis
c'était des bornes génériques. Ouais. Alors dans Karate Champ, tu as une petite phase, une dizaine de secondes pour t'entraîner.
Oui.
Hein. Donc t'as 10 secondes, tu essayes, etc. Il est impossible la première fois de retenir tout. Une fois que tu as maîtrisé quelques coups, étant donné que à chaque fois que tu fais une partie, tu dois mettre 2 francs, hein, 2 francs de crédit à peu près. Généralement, moi je me limitais aux coups que je maîtrisais.
Mais c'était de Bourges où t'étais. Moi c'était 1 franc le crédit, monsieur.
Non, c'était 2 francs. Attends, ça.
Non, monsieur, moi c'était
1 franc.
Non, 1
franc, c'était Time Pilot, c'était 1 franc le crédit. Mais...
Non, monsieur.
Oh, attends.
Messieurs, calmez-vous.
Non,
calmez-vous,
non,
messieurs.
2 francs.
Messieurs, calme-toi.
C'était 2 francs.
Paye, tu te calmes.
Je suis calme.
Tu te calmes.
Non, mais 2 francs. M'oblige pas à me déplacer, Karl. Et donc, bref, 1 franc 50, on va couper la poire en deux.
Ouais, voilà, oui.
Bref, le pécule étant limité, moi je me contentais des coups que j'étais sûr de maîtriser. Ouais. Donc j'allais pas m'amuser en plein combat à essayer différentes combinaisons pour voir ce que ça donnait.
Donc moi, je trouve que c'est un manque de courage, ça m'étonne pas de toi.
Ah oui, non mais. Et alors? Non mais quelqu'un qui a jamais fini Battle Chief, franchement, ça surprend pas quoi.
Et alors? Voilà. Et alors?
Bon. Et alors, Zoro est arrivé.
Et alors donc, il y avait évidemment pas dans les journaux, dans les quelques journaux que je ne lisais pas d'ailleurs, il y avait guère que Tilt, je pense à l'époque. Moi, je le lisais pas. Et alors? Il se trouve que dans ma classe, j'avais un copain qui avait passé l'été précédent dans un camping à jouer à Karate Champ. Il n'y avait que cette borne à disposition. Il avait dû passer un mois dans ce camping, donc il connaissait tout. Si tu veux donc, régulièrement, il me disait, ah bah tiens, tu devrais essayer tel truc. Alors tu mets la manette vers le haut, et la manette de gauche vers le haut, et puis la manette de droite vers le bas, et puis ça va faire ci, etc. Donc c'est comme ça que j'ai pu acquérir en fait une certaine maîtrise du jeu. Et il se trouve d'ailleurs, pour l'anecdote, que ce camarade que je n'ai revu que récemment, il est devenu très fort à Street Fighter 2.
Tiens donc.
Ouais, suite à une longue période de chômage.
Tiens donc.
Il est devenu très très bon à Street Fighter 2, mais vraiment bon au niveau. Enfin, il a un classement français qui, je ne sais pas dire exactement.
Et tu penses que c'est l'influence du chômage, je veux dire, de Karate Champ, qui lui a permis d'atteindre ce niveau.
Je ne sais pas, mais c'est assez étonnant. Donc voilà, pour maîtriser les coups, soit on regardait un autre joueur. Soit on avait la chance comme moi de connaître quelqu'un qui avait bien pratiqué.
Indique,
voilà. Alors,
qui pouvait t'en apprendre davantage.
Et là, bon, j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y avait effectivement sur le flyer original, il y avait la liste des mouvements.
Les coups, hein. Mais les coups, ils étaient annoncés aussi sur. T'avais un attract mode où ils t'expliquaient les coups.
Dans l'attract mode, si je me rappelle,
tu avais les coups, hein, puisque moi je l'ai relancé il y a pas longtemps sur la borne. En émulation forcément, mais tu as un attack mode qui t'explique les différents coups.
Ah, c'est possible, c'est bien possible. Mais j'avais tu
après,
vois, j'étais pas.
Est-ce que c'est parce que je sais plus quelle version j'ai lancé. Est-ce que c'est le Karate Champ original ou celui qui est sorti après
le version player versus player?
Ouais, je sais plus.
Oui, parce que on évoque le player versus player, mais c'est aussi ce que t'indiques dans ton article. C'est donc qu'il y a eu une deuxième version du jeu.
La même année.
Donc,
player versus player, c'est la deuxième version, en fait.
C'est la deuxième version, voilà. Donc, où on peut cette fois-ci affronter un adversaire humain. Mmh.
Donc quatre joysticks.
Donc voilà.
Donc quatre joysticks sur la borne, ce qui doit être vraiment atypique dans le monde de l'arcade. Je me rappelle pas d'une autre borne avec.
À l'époque, on part en quatre.
Version 90.
Oui. Version 90, exact. Et tu évoques aussi la paternité, on va dire, de Karate Champ avec d'autres jeux Technos. Alors tu parles de Renegade, par exemple, et tu parles de Double Dragon.
Oui. Donc Double Dragon qui est sorti 3 ans plus tard, donc qui a été réalisé par Technos, et donc là encore on reprend l'univers de la baston, et c'est toi qui me le faisais remarquer un peu plus tôt, il y a sans doute des éléments de décor également que l'on retrouve, comme le tronc d'arbre.
Quand j'ai lu l'article et que tu parles des troncs d'arbres qui servent de pont, j'ai de suite visualisé le niveau 3 exact de Double Dragon qui se passe en forêt où tu retrouves ces ponts. De suite, c'est l'image qui m'est venue à l'esprit. Alors après, est-ce que c'est une influence directe ou est-ce que c'est une coïncidence?
Ça peut être un easter egg aussi.
Ça peut être un easter egg, ça peut être une référence, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on regarde Double Dragon version arcade et quand on regarde Karate Champ, c'est vrai qu'on voit la paternité. C'est dans le mouvement des personnages, dans le principe, il y a quelque chose d'assez similaire finalement, même si Double Dragon déplace les arts martiaux finalement des dojos à la rue.
Oui, mais c'est normal, il fallait pas toucher à la gonzesse. Personne ne prend nos gonzesses et reste vivant. Non, ça c'est plus tard.
C'est plus tard. Surtout que la gonzesse, elle connaîtra un sort tragique dans Double Dragon 2 dès le début.
En même temps, elle l'a cherché.
En même temps, mais elle le cherche toute.
Fallait pas nous montrer sa culotte.
D'ailleurs, je suis déçu. Non, même pas un petit cœur sur la culotte. Ils auraient pu faire un effort. Hein.
Non mais chapeau paye. Calme-toi.
J'ai rien dit.
Non mais c'est vraiment un jeu qui est en tout cas très important dans l'histoire des jeux d'arcade et des jeux de combat en général, qui a dû vraiment marquer son époque et qui a été le socle, le terreau sur lequel d'autres jeux, donc on parlait de Renegade, de Double Dragon, mais peut-être même peut-on aller jusqu'au Street Fighter ou autre Mortal Kombat, peut-être que finalement Karate Champ a été plus ou moins l'origine de toute cette mouvance de versus fighting qui vont après fleurir dans les salles d'arcade au cours des années 80. Bah,
ce qui est intéressant aussi dans Karate Champ, dans la mécanique de jeu, c'est que tu peux pas te permettre d'y aller complètement de façon aléatoire. Parce que tu as un tel temps de latence entre le moment où tu rentres tes contrôles et le moment où ça réagit, que tu peux pas te permettre de placer deux coups. Donc t'es obligé de réfléchir un petit peu quand même. Et si tu te mets à réfléchir un peu, si tu regardes aujourd'hui l'évolution du jeu de combat, même depuis le départ, hein, bon, c'est poussé un peu plus aujourd'hui sur certaines séries, mais tu regardes que t'as besoin d'être rapide, mais de réfléchir. Tu peux pas te permettre de claquer un input qui a pas à être là, quoi.
Tout à fait, il faut veiller à ne pas laisser d'ouverture pour l'adversaire.
C'est-à-dire que si tu ratais ton coup, là tu pouvais être sûr que l'autre adversaire réagissait, et puis immédiatement c'était un demi-point ou un point pour l'adversaire.
L'ordinateur était assez véloce dans la borne.
Sur la première version, c'était plus simple. Sur la version qui est sortie juste après, ils avaient vraiment
C'était beaucoup plus dur. Sur la première version, si tu fais les deux versions, sous MAME par exemple, tu verras que la première version Karate Champ, donc, est plus facile. Les adversaires sont moins difficiles à battre.
Puis ce qui est marrant dans la deuxième version, c'est que tu te balades un peu, quoi. T'es pas toujours au même endroit.
Voilà. C'est ça.
Oui. Tu explores le monde en dehors.
Tu explores le monde, et puis il y a une demoiselle, évidemment, qui est là.
C'est même pas à sauver, hein, d'ailleurs.
C'est à sauver de ton adversaire, parce que veux lui mettre sur la gueule, c'est juste parce que c'est un affreux con.
N'empêche qu'elle prend le temps de te consoler et te faire amuser. De te consoler tout court si tu perds.
Elle est bien, bien sympathique.
Ouais, on appelle ça une salope, sinon.
voilà. Si. Chapeau,
c'est
Paye,
pas moi.
Tu vas te calmer, oui. Oh, il est intenable. Hein. Excuse-le, Karl. Hein, ouais. Donc Karate Champ. Est-ce que vous l'avez terminé en arcade à l'époque?
Oh non. Mais alors, si tu veux une petite histoire, c'est typique.
Je t'en prie.
Donc j'avais donc 10 ans quand je jouais à ce jeu dans la salle d'arcade à côté de chez mes parents. Un soir, j'avais dû dire que j'allais chez le voisin alors qu'en fait, évidemment, j'allais dans la salle de jeu. Alors que j'étais en train de jouer justement à Pole Position, Vlatipa, qui est une espèce de vieille poivrasse qui rentre dans la salle de jeu en poussant de... comme ça. Qui est la Chewbacca. Oh, Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je fais pas trop attention et puis je m'apprête à sortir, puis là, est-ce que tu veux jouer à la machine là-bas? Et moi, Dieu, avec toute la naïveté qui caractérise les enfants de 10 ans, au lieu de m'enfuir en courant, rentrer chez ma mère. Oh bah ouais.
ouais, carrément.
Donc il commence à me mettre des crédits dans la bande de Karate Champ. Et je commence à jouer, etc. Puis bon, je sentais quand même que c'était pas très normal, hein, d'être jouer le soir avec à côté de soi une espèce de vieille poivrasse là qui pue la vinasse. Et je m'étais dit, bon, va falloir que j'arrête de jouer là quand même. En même temps, je jouais gratuitement puisque le vieux est là. Et puis il se trouve que c'est ce soir-là que j'ai dû faire la meilleure partie. J'ai dû aller jusqu'au 8e tournoi.
Ah, c'est le stress.
Ah, mais c'était hallucinant,
pression,
parce que je disais, va falloir que je rentre chez moi, hein, va falloir que je rentre chez moi, puis là, de toute façon, généralement, j'arrive pas à le battre, celui-là, et puis j'arrivais à le battre, parce que j'arrivais pas.
Ah, ben, faut que je continue à jouer, alors.
Oh, c'était épouvantable. Le pire, c'est que c'était pas une salle de jeu mal famée, hein, elle était tenue par une famille très, très charmante, autant la plupart des autres salles de jeu dans ma ville, était tenu par des types, bon, que t'aurais cru échapper de la centrale de Saint-Martin-de-Ré, hein, mais là, non, c'était un cadre très accueillant. Généralement, la journée, c'était plutôt des lycéens parce qu'il y avait un lycée à côté. Et puis voilà, puis le soir, bon, des poivrons. Bon. Et donc, ce jour-là, j'ai réussi à aller jusqu'au, on va dire, voilà, 8e tournoi. Dans des conditions particulières, mais j'ai jamais terminé. Je crois qu'il y a 12 affrontements, enfin 12, oui, c'est ça, 12 matchs en gros.
12 matchs, oui, donc c'est quand même à le temps.
Et même en émulation, non, je suis pas allé, j'ai pas réussi à aller aussi loin. D'autant qu'on ne peut pas continuer la partie. D'accord, tu vois, tu perds, tu recommences à zéro.
Pas de continue.
Il n'y a pas de continue. Et par exemple, dans la version player versus player, il y a deux manches. Si tu pour battre son adversaire, il y a deux manches. Donc il faut que toi, tu le battes deux fois. Mais si lui, il te bat une seule fois, c'est pareil, tu as terminé.
D'accord.
Voilà.
L'égalité des chances, c'est pour les tapettes.
Voilà. Et donc, ce que je disais dans l'article, là, pour y jouer dans les meilleures conditions, à moins de posséder la borne, à moins de posséder le méga stick qui va avec, le mieux, c'est les manettes là, actuelles qui comportent deux petits joysticks, comme celles de PlayStation ou de la Xbox. Mm-hmm. Il suffit de les configurer, c'est ce qui permet de découvrir le jeu dans les meilleures conditions, parce que bon, les portages qu'il y a eu sur NES, j'ai essayé encore hier soir sur NES, c'est pas du tout la même chose.
On perd invariablement quelque chose du jeu original.
Complètement, ouais.
C'est clair. Complètement. Mais c'est marrant, parce que si tu regardes moi j'aime beaucoup les simulations de boxe, si tu regardes depuis Fight Night 4, je crois de mémoire, ou 3,
ouais.
3 peut-être, hein. Justement, ils ont réintégré ce jeu au double stick,
oui.
qui amène beaucoup. Et je crois que même avant ça, Rocky avait réintégré ça aussi.
Mmh. Et c'est vrai que
Rocky. Alors attends, tu parles de Rocky, de quel Rocky?
Le Rocky sur sorti sur Xbox, GameCube, Enco.
Ouais, il me semble.
Je l'avais bien aimé.
Il me semble qu'il réintroduit ces systèmes.
Alors après, on laisse le choix sur Fight Night Champion là, que j'ai sur Xbox. On te laisse le choix. Il y a les deux. Ça c'est bien.
Un toucher, un feeling qui reste quand même vachement plus poussé, je trouve.
Ouais, mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur.
Attends, on n'est pas des PD.
Eh oui, c'est la guerre, mon général. Mais est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose sur Karate Champ?
C'est marrant parce que on parle pas d'International Karate de Arthur MacLean quand même qui arrive derrière. Toute l'histoire du procès.
Ah, c'est vrai.
Toute l'histoire du procès où il a fallu avec Epic, enlever des différents marchés, qu'au final ça finit par revenir derrière, puisqu'ils ont gagné en appel.
Ouais.
Et voilà, faudrait peut-être en parler un petit peu, quoi.
Alors, tu l'évoques dans ton article justement, Fred, et tu dis justement que la cour, que Data East est dépouté en appel en 88. Je te cite, la cour estimant qu'un jeu de karaté entraînant de facto la présence de certains protagonistes, mouvements et situations.
Bon, enfin, ils ont quand même gardé le système de points. C'est quand même un pompage limité honté quand même. Hein. Faut pas déconner non plus.
Oui, non mais il suffit. Alors, c'est vrai quand on regarde, honnêtement, quand on regarde, si tu regardes une vidéo de International Karaté sur YouTube. Tu compares avec une version, avec une vidéo avec le jeu de Karate Champ, tu vois, enfin les similitudes sautent aux yeux, quoi. C'est clair, c'est les mêmes. Tu as l'arbitre qui est placé là, enfin il y a tout, si tu veux. Mais bon, la cour estimait effectivement que bah oui, dans un jeu de karaté, forcément, il y aurait des points, il y aurait différents mouvements, il y aurait un arbitre, il y aurait différents décors. Donc à partir de là, on pouvait pas, Data East pouvait pas considérer que le copyright avait été en frein.
Et enfin, ça aurait été dommage qu'il soit complètement c'est vrai coincé, parce que si tu vois après IK+, qui est quand même absolument génial, bon, qui là aussi repompe éhontément, hein, avec les bonus stages, etc.
Ben oui.
Parce que là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Et puis, de toute façon, un jeu où en appuyant sur la touche T, les karatékas perdent leurs pantalons ne peut pas être foncièrement mauvais.
On est...
Alors, IK+, c'était quand même bien différent, parce que là, tu pouvais y aller en bourrinant, sans trop réfléchir, tu risquais pas de perdre au premier coup dans la tête. Mais c'est surtout que voilà, après, ça veut dire que tous les autres jeux plus tard de Versus Fighting auraient pu très bien ne pas voir le jour. Le principe, parce que voilà, si Data East avait déposé, le Data East aurait pu prétendre que bah voilà, tout jeu qui implique l'affrontement de deux personnages, de deux combattants, c'est nous qui l'avons déposé, c'est notre idée,
pas touche. Et tu soulignes que ça aurait pu avoir une influence décisive sur l'évolution du genre du Versus Fighting, puisque pour revenir justement à ce grand boom, on va dire, post Street Fighter 2 en arcade, le nombre de clones de Street Fighter 2 d'un côté, de Mortal Kombat de l'autre.
T'es pas dans la même mouvance. Hein. C'est vraiment deux écoles complètement différentes. Que ce soit tu Mortal Kombat ou Street Fighter, c'est deux écoles complètement différentes.
Ah oui, non, je suis bien d'accord.
Oui,
mais je veux dire
sur le principe de deux protagonistes qui s'affrontent avec différents, qui se mettent sur la gueule avec différents mouvements
issus de Heavyweight Champ.
Non, enfin, ce que
sauf que
ce
non.
Que je voulais dire par là, excuse-moi.
Parce que c'était en noir et blanc.
Puis c'était un jeu Sega, ça compte pas.
Puis c'est Sega.
ce que je voulais dire par là, je vais préciser sa pensée. En fait, je ne comparais pas Street Fighter et Mortal Kombat. Je disais juste que d'un côté, après la sortie de Street Fighter 2, tu as eu énormément de clones de Street Fighter 2 d'un côté. Qui reprenait vraiment les différents types de personnages avec le ninja, la nana, le GI, etc. Et d'un autre côté, tu as eu Mortal Kombat qui a entraîné lui aussi un certain nombre de clones basés sur le sang, sur les fatalités, sur ceci, sur cela. Mais je ne mettais pas directement Street Fighter en concurrence en quelque sorte avec Mortal Kombat.
Il faut préciser dans ce cas-là,
d'accord. Non, mais vous.
Faut être clair. Faut être clair, monsieur.
C'était pas très clair.
Excusez-moi, mais comprenez les gens comme Rainmaker qui pourraient faire une attaque cardiaque à partir du moment où vous leur dites que Street Fighter et Mortal Kombat c'est la même chose. Vous voulez vraiment, ceci n'est pas une méthode, ceci est une provocation.
Non.
What do you want?
My plane.
Non mais on est bien d'accord. D'un côté on a un excellent jeu de combat et de l'autre on a une
non,
bonne femme.
On est bien d'accord.
Tu fais bien de le préciser car
je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Si ça continue comme ça, vous allez dire que Killer Instinct c'est pas le meilleur jeu de combat de tous les temps. Je ne peux pas vous laisser dire
ça.
Ah si,
Killer Instinct c'est le meilleur jeu de combat de tous les temps. Ah non, mais ça j'en suis intimement convaincu. Avec Clay Fighter 63 1 tiers, hein, on est bien d'accord.
Faut pas abuser non plus.
Mais j'aime beaucoup Clay Fighter 63 1 tiers. J'ai un amour, je sais pas vous, mais j'ai un amour pour les jeux de combat de la N64 qui sont moches. Des trucs style Wargot, Maze.
Non, ce qui est le plus intéressant sur la 64, c'est Fighter History.
Fighter History.
Mais oui, qui est ni plus ni moins que les jalons posés pour Tobal juste derrière sur PlayStation 1.
Exactement. Un jeu très sous-estimé.
J'aurais vous parler de titres qui me sont totalement inconnus.
Totalement.
Avec, il y avait une vache, je crois, à débloquer.
Dans les Fighters.
Non, pas dans les Fighters. Dans
c'est
Fighter
possible. History. Je t'avoue, là, c'est pareil.
Il me
j'ai
semble
dormi
qu'il donnait. Qui donnait des coups de pie à ses adversaires, il me semble. Hein.
Et le coup spécial, c'était une montée de lait.
Oui.
Je pense qu'il va falloir que tu arrêtes de regarder ces films que tu télécharges sur l'interweb.
Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les documentaires. Mm-hmm.
Surtout quand il y a des jolies filles, c'est ça.
Oui, bien sûr, évidemment, on ne se refait pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faudrait que je te rende les cassettes que tu m'as.
Ah, les Betamax des années 70? Oh. Les femmes avec des tabliers de sapeur et les.
Et les
à l'époque, les tubes de vaseline étaient encore au milieu du papier d'aluminium, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Merde, ça enregistre.
On va continuer cette conversation hors micro, hein, off. Ça sera pour un prochain numéro peut-être. Si jamais on évoquera ces thèmes très intéressants.
Sans déconner, il faudrait qu'on se fasse un gros cast sur les jeux soft porn qui sont sortis. Ça pourrait être marrant, intéressant.
Moi, j'en connais pas.
Moi. Oh, allons.
À part,
ouais, après, les jeux sur Larry,
qui est très chiant.
Soft porn aventure sur Apple 2, là. Putain, je me rappelle plus le titre complet. Enfin, t'en as quelques-uns. T'as Geisha, t'as
Virtual
voilà,
Valérie,
tous les jeux de Cocktail Vision, ces trucs-là, il y a plein de trucs à dire.
Mais comment il s'appelait? Mais la suite de Lost in Time, j'ai oublié, c'est pas May Willow, c'est Le Secret de Catherine.
Le Secret de Catherine. Ouais. Mais même ne serait-ce que Catherine aujourd'hui, c'est limite du soft porn. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ouais. Vous êtes quand même deux gros, les gars, franchement.
Mais attends, tu crois que j'ai deux enfants, non. Comment?
Moi, je connais pas tout ça, moi. Et moi, comment j'ai fait pour les trois que j'ai?
tu sais, c'est comme...
J'ai pas eu besoin, moi, de...
Mais nous non plus. C'est uniquement les jours.
Je pense pas.
Nous avons des besoins, si on comme...
Vous savez, quand on parle de ça, je repense toujours à Rabelais et à Gargantua, puisque Rabelais dit que Gargantua est né de Gargamel, qui a accouché
quoi,
par l'oreille
droite. Quoi, Gargamel?
Gargamel? Oui. Et Gardner a donné naissance à Gargantua par l'oreille droite, ce qui laisse entendre que par l'oreille gauche, il se passait des trucs pas très catholiques. Bref, messieurs, je pense que l'on a bien abordé le cas de Karate Champ, donc on ne peut que vous inviter à essayer ce petit morceau d'histoire.
Moi, je suis quand même déçu parce que pour un jeu de karaté, émulation. On s'est pas vraiment mis sur la gueule.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est sûr.
Mais tu vas voir que sur le forum, ils vont encore nous reprocher.
Mais non.
C'est vrai, ils nous aiment.
Non, écoutez, chers auditeurs, on vous promet un jour, on fera un podcast spécial Sega, et là, ça va être beaucoup plus violent.
Non, mais moi, je m'inscris
sauf
tant
qu'en
que
deux
futur
minutes,
invité sur
tout le monde,
la saga Pokémon, sur n'importe quel Tower Defense, et rassurez-vous là-dessus, en fin de compte, n'importe quel podcast où David aura le courage de venir, je pense qu'on pourra s'amuser un peu.
Bon, il y aura de l'action. Il y aura de l'action. Avant d'entamer la deuxième partie de ce gros cast, nous allons écouter un petit morceau de musique. Alors, d'ordinaire, pour cette pause musicale, on essaye de trouver une piste du jeu dont on parle en première partie. Pour Karate Champ, c'est assez compliqué, mais nous allons malgré tout rester dans le thème du karaté, puisque vous allez avoir la chance d'écouter une piste de Parapaz Rappeur sur PlayStation et du premier stage avec un certain maître karaté à tête d'oignon, Chop Chop Master. Et on se retrouve juste après pour parler du jeu vidéo dans les autres médias. À tout de suite. Punch the soul in the mic. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya. Sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick,
kick,
punch,
punch,
chop,
chop,
block,
block.
Once more now, kick,
kick,
punch,
punch,
chop,
chop,
and block,
block.
It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck,
duck,
jump,
jump,
turn,
turn,
pause, listen carefully. Jump,
jump,
pause,
pause,
duck,
duck,
and turn,
turn.
Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her. Now kick, punch,
kick, punch.
Chop, block,
chop, block,
chop, kick,
chop, kick,
punch, block,
punch, block.
It's gonna get harder now, duck and jump,
duck, jump,
turn and pose,
turn, pose,
duck and turn,
duck, turn,
jump and pose. Why don't you follow my words, because we're almost done. I'll make it easier first. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now? Here we go now. Kick, punch, block.
Kick, punch, block.
Chop, kick, block.
Chop, kick, block.
Block, duck, and kick it.
Block, turn, kick.
Block, duck, punch.
Block, duck, punch.
Duck, duck, turn. Jump, kick, chop,
chop, kick, chop,
and punch, punch, punch,
punch, punch, punch.
That's it for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now.
Yahoo! All right.
De retour dans ce deuxième numéro du gros cast, et nous allons inaugurer aujourd'hui une nouvelle rubrique, l'instant Rainmaker. Karl, jingle.
L'instant Rainmaker!
Alors, l'instant Rainmaker, qu'est-ce que c'est? C'est un cri d'amour envers l'un des membres du forum de Gros Pixel, qui, tour à tour, nous étonne, nous épate par ses nombreuses interventions. Et Rainmaker est notamment connu dans la communauté pour son amour illimité, dirais-je, pour les films de Tatan, pour Steven Seagal et pour Jean-Claude Van Damme. Et
à mon avis, je pense qu'il est secrètement amoureux de Steven Seagal.
Il me semble aussi. Et en parlant de Jean-Claude Van Damme, cela offre une transition toute trouvée, puisque dans ce film culte, ce monument du 7e art qui est Bloodsport, on peut apercevoir les héros en train de s'adonner à une petite partie de Karate Champ. Cela nous permet donc de faire une transition vers la deuxième partie de ce podcast qui s'intéressera aux références que l'on peut parfois trouver dans les films, à la télévision, voire dans les romans, aux jeux vidéo. Alors, il ne s'agira pas ici de parler de placement de produits à proprement parler, cela sera peut-être l'objet d'un futur crocast, mais d'évoquer sur l'ère du souvenir et de la nostalgie des films, des émissions de télévision d'antan qui parlaient de jeux vidéo. Messieurs, Karl, Chapopey, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez souvenir d'un film en particulier qui montre au détour d'une scène un jeu vidéo?
Mais pas forcément au détour d'une scène, il y a un film construit tout autour, c'est The Last Starfighter.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Non.
Très bien, Chapopey.
Non, je ne voudrais pas en dire plus, parce que si vous n'avez pas vu, c'est que vous ne méritez pas d'en savoir plus.
Est-ce que tu...
Bon,
tu
allez, le pitch, vite fait, c'est un môme dans un camping qui joue sur une borne d'arcade et qui est un whiz-kid et qui explose tous les scores. Et cette borne a été placée dans le camping par des extraterrestres pour pouvoir sauver leur monde.
Et cette borne, c'était pas Karate Champ?
Mais non, je crois que tu confonds avec Bloodsport.
C'est pas lui. Si, le gars, c'est lui, le gars qui est prêt, t'es dans ma classe. Et si, c'est ça.
Non, mais donc, après, les extraterrestres. C'est vraiment le film des années 80, dans toute sa splendeur. C'est mignon comme tout, quoi. C'est de la SF très old school avec qui est guimauve au possible, qui est pétri de bons sentiments. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon.
Mais le jeu en question que l'on voyait dans le film était
n'existe pas.
Il a été inventé.
Ce qui est un scandale.
Tout à fait.
Non, mais il faudrait vérifier parce que c'est pas dit que ce soit pas l'adaptation d'un titre connu à l'époque ou qu'il n'y ait pas eu une adaptation derrière. C'est à vérifier. Là, je t'avoue que de mémoire, je sais plus. Mais c'est vraiment, voilà quoi. C'est quand on parlait de films des années 80, des films de Tatan, des machins, etc. Il y a une cote d'amour totalement démesurée pour les trentenaires de mon espèce. Mais voilà quoi. C'est vraiment le genre de film qui, voilà, c'est de la madeleine quoi.
Donc The Last Starfighter, à voir ou à revoir. Sans soif pour ceux qui sont assez clients du genre.
Mais toi, chat, c'est ton rapport avec ce film?
Non. Que je ne connais pas.
Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Bien sûr, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Personne ne le connaît. T'es sûr qu'il existe vraiment? Ah ouais. C'est pas tant, il vient de faire l'affiche
Wikipédia. Ouais.
Non, monsieur. Et pour preuve, je peux prendre une photo du DVD dans le DVD Tech. Très très bien placé, monsieur.
Parce que c'est sorti en DVD en plus. Bien.
Non, oui, monsieur.
Il y en a qui ont peur de rien.
Directement en DVD.
Ce n'est pas une méthode, c'est de la provocation. Vous voulez que je retourne à ma Xbox, c'est ça?
Ok. Non, moi je connais pas donc ce film, hein. Alors ce que je voudrais dire, moi, dans les années 80 et au tout début des années 90, pour ce qui me concerne, c'était l'époque où je n'avais pas de console à la maison, mais j'étais déjà fasciné par tout ce qui était jeux vidéo. Et lorsque dans un film ou dans une publicité, mais généralement c'était plutôt dans un film, on voyait ne serait-ce que 2 secondes de jeu vidéo, mais alors là je devenais complètement fou quoi. Et j'étais du genre à me repasser en boucle si je l'avais enregistré légalement.
Pas comme le hein.
J'étais du genre à me repasser la scène. Voilà. J'étais du genre à me repasser la scène en boucle. Alors par exemple dans Gremlins, il y a une scène dans le bar où il y a pendant 2 secondes on voit un Gremlin, enfin 2 Gremlins mm-hmm. peut-être, qui sont en train de jouer à la borne Star Wars. Quand j'avais vu ça, ah la vache, il y a Star Wars dans le film, etc. Et c'était du genre, j'avais même montré plusieurs fois à un pote, pour lui dire, regarde, toi qui as un PC, tu devrais acheter ce jeu, machin. T'as vu comme il est bien? Et je lui ai expliqué, sur les 2 secondes, je lui ai expliqué, alors toi, t'as le viseur qu'il faut tirer là, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, moi, j'étais à chaque fois fasciné, de la même manière dans Ghostbusters 2, où dans Ghostbusters 2, les Ghostbusters font fonctionner la statue de la liberté grâce à cette merveilleuse manette
Nintendo,
la NES Advantage. Même chose, on a
dit qu'on parlait pas de produit placement.
Oh, deux secondes, pas vraiment du placement de produit.
Non, à peine.
Ça ressemblait beaucoup quand même.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À Nintendo, c'était le jeu vidéo dans les années 80. C'était comme aujourd'hui, SOS Phantom 2 aurait été tourné dans les années 90, dans la deuxième moitié des années 90, ça aurait été un pad de PlayStation.
Non, ce n'est pas possible. Non. Mais tu veux vraiment faire crever petite vieille, toi?
Après, on avait, parfois ça apparaissait dans des films vraiment inattendus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Le bal des casse-pieds d'Yves Robert. Eh bien, à la fin, dans l'avion, la scène se déroule dans l'avion et il y a Jean-Yann dans cet avion. Et que fait Jean-Yann? À part emmerder ses voisins, évidemment, parce que c'est le but du film.
Voilà. Notre modèle à tous.
Jean-Yann est en train de jouer à, je crois que c'est G-Lock sur Game Gear. Donc, même chose, on a quelques plans.
Excuse-moi, j'ai deux questions. De Jean-Yann, que tu prends la Game Gear. parce que Jean-Yann, en train de jouer à G-Lock.
Je t'assure.
Non. Ça compute pas, quoi.
Écoute, je crois que c'est G-Lock. En tout cas, il est en train de jouer à la Game
Mais
Gear.
Mais non, c'est pas possible, tu peux pas jouer à la Game Gear dans un avion. Non. T'as jamais assez de piles.
C'est pas possible.
Après le décollage, t'as plus de piles.
Puis personne ne joue à la Game Gear. C'est une légende urbaine, la Game Gear. Ça n'a jamais existé, voyons.
Et puis c'est pareil, dans le genre console portable, c'est dans Ennemi d'État où il y a
une PC Engine GT.
Une PC Engine GT, oui, que Gene Hackman utilise pour qu'il s'en sert sur plus de radar ou quelque chose comme ça. Enfin.
Mais bon, pour rebondir sur tout à l'heure, puisqu'on va parler un peu de série télé aussi. Si tu aimais autant les bornes d'arcade, ta série préférée, ça devait être Ricky ou la Belle Vie.
Ah purée, Ricky ou la Belle Vie. Ça, c'était fabuleux. C'était fabuleux, cet enfant, ce sale gosse de riche, pété de thunes, qui avait, outre le petit train qu'il avait dans son salon, il avait effectivement plusieurs bornes d'arcade. Il doit avoir un ou deux, quatre bornes d'arcade, peut-être un flipper ou deux.
Il y avait Pac-Man, ça c'est sûr.
Foot, et là, tu te dis, purée, la vie rêvée, quoi. D'ailleurs, c'était Ricky ou la Belle Vie.
La recherche du bonheur est tellement simple.
C'était, voilà.
Un petit coup de Rémi sur la famille derrière pour revenir au roi des pâquerettes,
à la vie des vrais gens.
Moi, ça me fascinait. C'était vraiment les choses qui me fascinaient le plus qui me fascinaient vraiment quand je regardais des films. C'était le moment où apparaissaient quelques instants, soit d'un jeu, soit d'une borne d'arcade.
Dans Terminator 2,
Compères, il y a Depardieu qui va chercher son gamin dans une salle de jeu et qui tient des propos désobligeants vis-à-vis du patron d'ailleurs. Et puis dans les années collège.
Et Pierre Richard qui rigole et la patronne croit qu'il est en train de
pleurer. Ah ça c'est dans la station service.
Ah oui, c'est dans la station service.
Il y avait dans les années collège aussi, je me souviens d'un des gamins en train de jouer à WWF Superstars. Enfin bon, c'était. Et il y avait également des pubs. On le voyait parfois dans des pubs. Alors, c'était pas forcément des jeux existants, mais je me souviens, alors une pub Colgate, qui doit dater de 85, on va dire, ouais, où en gros c'est un gamin, alors je vous la fais là, le gamin le matin qui va, ou le soir, je sais plus, qui va se laver les dents, il approche de son miroir, il commence à prendre le tube de dentifrice, et subitement, oh, un monde un nouveau monde s'offre à lui, et on le voit en train de jouer une sorte de Space Invaders, ou plutôt de missile commande plutôt
pour détruire la plaque dentaire
ouais c'est un peu ça où il y a le tube là qui peut se balancer de gauche à droite et qui envoie des jets de dentifrice. Voilà, je trouvais ça fascinant.
On avait peur de rien, mais finalement ce qui ressort de tout ça, j'ai l'impression, c'est que c'était parfaitement intégré à une forme de culture populaire plutôt pour les jeunes, pour les adolescents, mais c'était pas finalement considéré comme quelque chose de dangereux ou de
non
malsain.
Mais alors attention, si tu veux rester dans l'historique et dans le rétro, faut pas oublier Computer Space dans Le Soleil Vert avec Charlton Heston, qui grand film il en est, et tous ceux qui l'ont pas vu devraient être fouettés jusqu'au sang jusqu'à ce qu'ils l'aient vu, parce que malheureusement film d'anticipation de 73 mais toujours malheureusement d'actualité, mais vraiment
et là, vraiment, 72
non 73.
Ah bon, d'accord.
Oui.
Moi, c'est possible. Hein.
Ne touche pas à mes Madeleines.
73,
hein, je confirme.
Okay,
ne touche pas à mes Madeleines.
Il était tourné en 72. Oui, donc, Soleil Vert, oui, tu as effectivement Computer Space.
Computer Space, ouais. Et plus récemment, dans la série télé de Walking Dead, tu as, quand il se retrouve dans le bunker, une borne Pac-Man, je crois, de mémoire. Pac-Man ou Galaga,
il me semble,
deux,
oui,
mais c'est un vieux truc, ouais.
C'est un vieux truc qui est présent, effectivement. On a
non, il joue même dessus, le gamin. Enfin, non, il peut pas jouer dessus parce que ça consomme d'électricité, donc il lui dit qu'il peut pas la brancher.
Ah! Alors, cela dit, Mathieu, tu parlais de la culture populaire, enfin, quelque chose qui était entré. Ça, c'est possible, enfin, c'est sans doute vrai, mais pour ce qui est concerné les États-Unis. Parce que la vision, moi je reprends l'exemple là dans les compères, la salle de jeu, la salle d'arcade que l'on voit est considérée comme un endroit malfamé, un repère de jeunes délinquants.
Bah, c'est l'image de Renault dans ses chansons. Voilà.
Le patron est un homme qui n'en a rien à secouer que des gamins.
C'est les blues fugues, noirs, enfin, bon.
Alors que si tu prends, quand tu vois des salles d'arcade dans les films aux États-Unis, bah, c'est des salles qui sont dans des centres commerciaux, dans des malls, quoi. Et c'est quelque chose qui est plus familial. On n'a pas cette mauvaise image.
Même t'as de la salle en extérieur aux États-Unis, mais c'est resté dans la culture comme un endroit de loisir et pas un lieu de perdition.
C'est pas un lieu de perdition.
En même temps, nous, on a ce qu'on recherche aussi. Hein. Si tu regardes, au départ, c'était dans les bistrots que ça s'est vraiment développé l'arcade chez nous. Donc,
C'est vrai que les salles d'arcade en France étaient quand même, c'était pas des lieux fort recommandables.
Bah, à part ceux qui étaient dans les centres commerciaux, qui étaient à peu près bien gérés, tu regardes la plupart des salles en France, elles étaient où? Elles étaient à proximité des gares, dans les quartiers un peu tendus.
Ouais,
c'est un peu compliqué aussi, quoi.
Donc en définitive, vous direz qu'il y a vraiment une différence de traitement à cette époque-là, donc c'est-à-dire années 80, années 90 du jeu vidéo entre les productions américaines et les productions françaises.
C'est même encore le cas aujourd'hui. Hein.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes des mômes qui jouent dans les séries françaises à des jeux vidéo, c'est à la limite de l'autisme.
C'est vrai que c'est souvent des jeunes qui sont en échec scolaire ou qui ont des problèmes de communication avec leur famille. C'est présenté comme quelque chose d'hypnotisant.
Mais heureusement, Julie Lescaut arrive avec sa crinière de feu et vient remettre ce pauvre enfant sur la voie de la vie. Va jouer au foot.
Alors, pour revenir un peu à ces références, moi je me rappelle d'un film que j'aimais énormément quand j'étais petit, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois sur chez mes parents, sur qu'on louait au vidéo club, qui parlait de jeux vidéo, mais de façon détournée. Il s'agit de War Games. Je ne sais pas si vous connaissez ce film.
Oui, je l'ai vu.
Voilà. Et c'est intéressant. C'est un film qui me fascinait pour la simple et bonne raison que il y avait une alliance du jeu vidéo avec un discours militaire paranoïaque. Derrière, puisque c'est...
Oui, mais monsieur, même les paranoïaques ont des ennemis, donc faut pas tout leur mettre sur le dos.
Non, bien évidemment. Mais il y avait ce côté dangereux de la micro-informatique, puisque l'histoire du film, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est grosso modo un ordinateur de la défense américaine qui se croit menacé par une attaque fictive et qui donc s'apprête à lancer des représailles qui pourrait terminer en guerre thermonucléaire totale, tout simplement à cause d'un petit écolier qui a piraté l'ordinateur pour changer ses notes de cours et qui n'avait strictement aucune idée du bordel que ça allait entraîner.
Alors c'était pas pour ses notes de cours, c'était tout simplement il cherchait des nouveaux jeux à télécharger.
Il voulait
connecté à ce serveur.
Et
il s'était connecté sur serveur. Effectivement, c'était une époque. Enfin, le film est sorti en 83, je crois. Bon, j'ai dû le voir quelques années plus tard, mais à l'époque, le concept du modem, je n'avais jamais entendu parler. C'était quelque chose d'assez fascinant de voir cet enfant cet ado qui parvenait à se connecter à d'autres ordinateurs par on ne sait quel
pouvoir,
forme magique, pouvoir. Évidemment, celui qui découvre le film aujourd'hui, bon bah, ça va pas
oui,
avoir le même.
C'est un peu l'effet Tron, hein, c'est pareil.
Voilà, mais il y a une saveur malgré tout dans ces films-là. À l'époque, où c'était pas de l'informatique, mais encore de la micro-informatique, où il y avait toute une admiration en faire ces moniteurs en bakélite, ces claviers, ces lignes de code. Il y avait toute une
ces écrans verts.
Voilà.
Ces écrans verts. Oh
non, mais il y avait un côté vraiment de nouveauté technologique qui, bien sûr, aujourd'hui prête à sourire. Mais finalement, je me suis fait cette réflexion en préparant ce sujet. C'est mettons qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque les jeux vidéo dans les films, mettons dans les films d'action américains, lorsque l'on voit au détour d'une scène un ordinateur, une console, ou bien lorsque le film traite de piratage informatique, etc., c'est très rarement de vrais logiciels que l'on voit à l'écran.
Donc ça, c'est sûrement une question de droit aussi, hein. Après, la plupart des vrais logiciels que tu vois, et on a dit qu'on n'en parlait pas, mais c'est souvent du product placement. C'est aujourd'hui tu regardes n'importe quelle série dite policière et gros. Je me faisais la réflexion puisqu'en ce moment je regarde The Mentalist avec ma douce et tendre, où tu vois les logos Windows derrière les PC et dans le générique de fin c'est écrit que le matos est fourni par Microsoft. Comme tu regardes Criminal Minds, tout le matos c'est du Apple et voilà. Donc,
Apple est très fort pour ça. Généralement, on voit toujours des produits
même
Apple.
Dell, dès qu'il y a un ordinateur. Regardes, au départ, je crois que dans les premières saisons de Criminal Minds, c'était pas du Apple, c'était du Dell.
Et puis après, ils ont changé de partenaire commercial.
Voilà. Donc bon, on a dit qu'on parlait pas pour des
Alors oui,
donc on va pas digresser
on va refermer,
là-dessus pour rester totalement impartial. Mais
on va refermer la parenthèse. On va refermer la parenthèse. Mais pour revenir justement au film que vous citiez, donc Chapeau Pay, quand tu parlais par exemple de Gremlins 2 ou de Terminator, on mettait une borne.
Ah, c'était Gremlins,
oui,
et Terminator 2.
Excuse-moi. Quand on voyait voilà ces bornes de Pac-Man, de Space Invaders, quand un personnage rentrait dans une salle d'arcade et qu'on entendait les bruits caractéristiques de ces jeux de l'époque,
on essayait
de reconnaître vraiment.
Mais encore aujourd'hui, c'est ça le problème. Dès que tu vois un petit bout de borne, tu te retrouves à mettre la pause et regarder. Mais putain, c'est quoi?
Et tu t'interroges et tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
Et puis tu finis par claquer un post sur un forum dédié en disant putain, dans ce film-là, j'ai vu cette borne.
Alors, sachant que souvent, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit un gamin qui joue à un jeu dans un film, un jeu vidéo, les sons les sons sont vraiment très rudimentaires, ne correspondent absolument pas à ce qu'on pourrait avoir.
Ce qui est intéressant, c'est que t'entends quand même
c'est
le bruit
c'est
du microscope.
Ouais, c'est...
Ouais. Oui. C'est vrai que c'est intéressant. Comme si, enfin, je reviens sur ce problème des sons, comme si les sons originaux ne faisaient pas assez jeux vidéo pour le grand public.
Il faut que ce soit bip bip bip.
Il faut
bip
en substituer d'autres pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit un jeu vidéo. C'est vraiment intéressant cette représentation imagée de ceux qui ne connaissent pas forcément la borne en question, le jeu, que ce soit Pac-Man, Space Invaders, que sais-je encore, et qui s'en font une représentation tout à fait spécifique. C'est quelque chose que je trouve très intéressant finalement à étudier.
Et je pense qu'on n'a pas fait le tour au niveau des films. Ça prendrait un podcast complètement complet là-dessus. Si on parle des médias, faudrait peut-être arriver rapidement sur les autres choses que les films. Genre les séries animées, les comics,
tout
les
à
produits
fait,
dérivés,
va...
ce genre de trucs. Quoi.
Ça, moi, voilà, j'avais juste un autre exemple.
Whiskid, avec sa cartouche dorée.
Alors, dernière
qui vaut un bras sur
c'est
eBay.
Pas celui-là, c'est... C'est l'an dernier, j'étais allé avec mes élèves voir un film qui s'appelle Jiburo. C'est un film coréen qui doit dater de 2007 peut-être. Et ça raconte l'histoire d'un petit gamin
pervers
coréen qui est envoyé chez sa grand-mère qui est une vieille qui vit dans un petit village qui est recluse, enfin bon, c'est sans électricité, sans rien du tout. Et le gamin, lui, c'est un sale morveux, mal élevé, etc. Et il passe son temps sur une console de jeu portable que je n'ai Et alors là, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette console? Alors pareil, les bip bip qu'on entend, c'est toujours le même pattern. Hein, c'est du bip bip et toujours les quatre mêmes. Cinq mêmes,
c'est une GP32 et c'est une petite vieille, nos gamins. Dis-moi que c'est ça.
Là, je vais faire marquer mes élèves. Regardez, hein, c'est, ça correspond pas, machin. Vous voyez, il appuie alors que le son. Enfin bref, et la machine en elle-même, inconnue au bataillon, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont créé de toutes pièces? Alors qu'ils auraient pu prendre un Game Boy, par exemple, et ça l'aurait fait, quoi. Là, non, ils ont dû fabriquer quelque chose, parce que même les consoles obscures, genre Gameit ou compagnie, ça n'y ressemblait pas. Donc, voilà. Jibouro.
Mais comme le faisait remarquer Karl, on va sortir un peu du domaine des films pour aborder les autres médias.
Attends, avant de quitter le monde des films, il faut quand même qu'on parle de whisky.
Ah oui, et effectivement.
Ne serait-ce que pour le Power
Tout
Glove.
Tout à fait. I love the Power Glove.
Mais oui.
It's so bad.
Mais oui, moi aussi. D'ailleurs, j'ai un t-shirt magnifique avec un Power Glove dessus. Non, j'ai la main trop grosse. J'ai dit la main.
Non, mais là, on a dit qu'on parlait pas de placement de produits, alors que.
Mais non, mais c'est pas vraiment un placement de produits.
C'est une publicité d'une heure trente pour Super Mario Bros 3 Whisky. Je suis désolé. Ah, mais si, j'en suis navré,
Mais cette cartouche dorée, qui se vend un bras sur eBay, mais pourquoi ne pas en parler?
Mais plus tard peut-être, mais non, WizKid, je le classe catégorie placement de produits, on en parlera quand on parlera des placements de produits, point barre, c'est tout.
Ouais,
c'est moi qui dirige le podcast, c'est moi qui décide.
Espèce de despote.
Despote. N'est-ce pas? Je n'ai pas de répartie, mais ça vient de.
Vladimir Poutine, à côté de toi, c'est un saint, c'est ça, hein? Fais attention, la révolution gronde!
Mais bon, puisque je vois que t'es bien loquace, alors on va rester sur toi. Tu voulais parler des autres médias. Tu avais parlé donc normalement de séries télé, séries animées, de comics. Quels exemples avais-tu en tête?
Bah écoute, tu
alors choisis.
Donc réfléchis un petit peu quand même.
Mais je vais pas.
Ne serait-ce qu'un truc qui va faire bondir Meutefeu de son siège, une série animée Sonic.
Non. Encore, tu m'aurais dit Super Mario Bros Super Show. Oui, d'accord. Tu m'aurais parlé du dessin animé Zelda.
Oui, aussi. Hein.
D'accord. Ouais.
Et le dessin animé Double Dragon, alors, tu l'oublies?
C'est vrai qu'il y a le dessin animé Double Dragon.
Ah, je connaissais
pas,
mais
je pense que tu rates pas grand-chose.
C'est vrai qu'il y avait eu le dessin animé Double Dragon.
Mais là, on est dans des cas particuliers où c'est vraiment une adaptation, de la même manière qu'on adapte des films avec plus ou moins de bonheur. Là, on a des personnages qui sont adaptés en dessin animé, comme Mario, Sonic,
Double Dragon, dessin animé, Double Dragon, parce que film.
Mais attends, Double Dragon a été aussi adapté en comics.
C'est vrai.
Oui.
Ah bon.
Oui.
On en apprend tous les jours.
Il y a des fois où l'ignorance est quand même une sacrée bénédiction.
Préférable.
Après, si tu restes dans le transversal, ce qui a été intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est le développement dans les nouveaux médiums type manga. Si tu regardes Castlevania, Zelda, qui ont été adaptés dans des versions de manga, bon, qui sont encore une fois anecdotiques, hein, la plupart du temps, parce que c'est pas forcément très intéressant ou ça n'apporte pas vraiment un arc supplémentaire à l'univers, ce qui est bien dommage parce que ça aurait pu être un bon médium pour pouvoir développer les univers qui sont souvent assez profonds dans ces séries-là. Mais bon, voilà, quoi, c'est vrai que tu sens que c'est du produit qui est placé pour pouvoir engranger du pognon sur le dos des fans, et puis
c'est triste. Des séries dérivées,
mais bon, c'est souvent le cas.
Mais parfois il y a des choses quand même assez intéressantes qui surgissent. On parlait de Sonic tout à l'heure, mais les comics Sonic.
Donc, quelque chose d'intéressant et Sonic, ça peut pas aller ensemble.
Mais malheureusement, je vais me faire l'avocat du diable. Mais
quoi?
Mais on parlait de Sonic tout à l'heure, et il y a non seulement des séries animées Sonic. Je pense à Sonic le Rebelle, notamment en dessin animé. Non,
continue pas, c'est bon, la vanne est finie.
Sincèrement, je pense à Sonic le Rebelle ou aux archi-comiques Sonic, qui lavent même des fans dont je ne fais pas partie, je ne fais que colporter des rumeurs, prétendent...
Oui, des rumeurs pour discréditer leurs fans les plus purs. Bravo. Mais je lis dans votre jeu, monsieur Motefeu.
Qui prétendent donc, laissez-moi finir, que ces produits dérivés-là, en fait, se servent vraiment de l'univers construit par les jeux pour vraiment faire quelque chose de nouveau, partir sur une toute autre direction. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder, quand ça passait sur TF1 de temps à autre, Sonic le Rebelle.
Quoi ? Tu as regardé TF1 ?
Eh oui, j'ai regardé la télévision tout court, et oui. J'étais jeune, j'avais besoin d'argent.
Et tu avais du temps de cerveau disponible alors, ou pas ?
Ça m'arrivait. Et effectivement, quand on regarde, bon, il y avait l'animation était parfois aux orties et le design était parfois très contestable, mais finalement, c'est la preuve que les créateurs avaient tenté de faire quelque chose finalement d'un peu plus élaboré avec des personnages de jeux vidéo, là où les autres exemples du genre, donc je pense au Super Mario Bros, Super Show, ou le dessin animé La Legend de Zelda, qui en sont comiques, tellement elles sont éloignées de l'esprit.
On peut dire que c'est une sombre merde.
On peut dire ça, mais bon, il y a un facteur nostalgie quand même qui joue énormément. C'est comme quand on regarde Captain N, quoi. Il y a un aspect nostalgique qui arrête ça immédiatement. Qui prend le dessus, c'est toute mon enfance, quoi. Ça fait partie des émissions à la télé qui permettaient de poursuivre un peu l'expérience des jeux que l'on
pratiquait. Allonge-toi sur ce divan. Faut vraiment qu'on parle.
pour rester sur la télévision, je voulais en parler lors de ce gros casse, donc je l'évoque maintenant vu qu'on parle de télévision, mais je me rappelle de Microkit, présenté par
Jean-Michel Blottière.
Non,
toi tu es trop jeune, ouais. Tu dois connaître uniquement
le Dr. Click.
Cet imposteur de Dr. Click.
Mais je me rappelle de certaines émissions avec Blottière, et je me rappelle de la nuit des jeux vidéo de 1993, qui était passé sur FR3, qui avait consacré une soirée entière au thème des jeux vidéo, donc en fait qui était un gros numéro de Microkids finalement, où il y avait quand même en invité Albert Uderzo, pour parler un peu d'Astérix et des adaptations d'Astérix en jeux vidéo. Il y avait le fil rouge avec Keter sur CDI, qui était la console du moment. Il y avait une petite historique du jeu vidéo en plusieurs épisodes. Il y avait des petits tests. Il testait Mr. Nuts, il testait Star Fox, il testait Landstalker. Il y avait un petit discours d'un médecin sur l'épilepsie et le jeu vidéo, qui était vraiment la bête noire. Mais à l'époque, les parents avaient peur. Est-ce que mon gamin va devenir épileptique? Oh mon Dieu! Et d'ailleurs, rétroactivement, ce que je trouve très con de la part de François, c'est que donc tu as le médecin qui prend le micro, qui explique ce qu'est l'épilepsie, patati patata, et il expliquait notamment qu'une crise d'épilepsie pouvait se déclencher, par exemple, en voiture, lorsque sur les routes, il y avait des platanes qui portaient la route, et que l'alternance ombre-lumière des platanes pouvait créer une crise d'épilepsie. Et il disait un effet qu'on peut parfois retrouver dans certains jeux vidéo. Et là, t'as France 3 qui affiche en grand sur l'écran de télévision des formes noires et blanches totalement psychédéliques qui s'alternent. Et je me dis, mais voilà, ça va déclencher.
Mais il parlait du cargot, disons, avant.
D'épilepsie. Et je me suis dit, mais plus tard, ça fera...
Ils sont en train d'en déclencher.
Je trouve ça génial, la pédagogie de France 3, quoi. C'est absolument formidable. Enfin, genre, voilà, ils auraient parlé du cyanure, oui, poison mortel, allez-y, faites passer, goûtez, vous allez vous rendre compte. Enfin, c'est absolument prodigieux. Donc, je me rappelle de ça, et j'ai encore la VHS de la nuit des jeux vidéo qui est...
Oui, mais tu n'as plus de magnétoscope, c'est triste.
Et je n'ai plus de magnétoscope, mais bon, je l'ai récupéré parce qu'on peut le trouver, notamment sur abandonwaremagazine.org. Le site des vieux magazines, il est disponible en téléchargement.
On n'a dit pas de product placement.
Mais bon, j'en parle en fait, c'est ceux qui voudraient voir ce petit morceau de télévision française qui avec le recul reste malgré tout.
Mais tu sais, tu avais il y avait eu Microkids effectivement à partir de 91-92, mais déjà au milieu des années 80, moi je me souviens de deux émissions de télé, une qui s'appelait déjà Microkids sans S, qui était présentée par un Gus qui avait un peu la tête de Christophe Boursier, qui s'appelait Mousse, et le principe c'était il recevait deux équipes de quoi, 5-6 gars qui représentaient chacun un établissement scolaire, Et donc les deux équipes s'affrontaient sur des jeux.
Alors c'est Croc Sam, c'était dans Croc Sam 6.
Oh, je ne sais plus. Et je sais que c'était des jeux du qu'on devait pouvoir trouver sur Vidéopack par exemple. C'était un peu le style Vidéopack.
Ça me fait penser à enfin c'est bien plus tard mais à Télévisateur 2.
Ouais, ça fait
où les jeux
déjà dans Micro Kids de Jean-Michel Blottier, il y avait déjà ça, l'affrontement entre deux gamins qui étaient généralement aussi peu doués que enfin bref, que jeune. Mais dans Micro Kids, donc c'était voilà des équipes, c'était par équipe, c'était milieu des années 80, et tu sentais une volonté quand même, il y avait la volonté de développer en fait l'informatique en France, de montrer ça sous un aspect positif, joyeux.
Mais c'était
le plan,
c'était
informatique,
voilà, c'était le programme informatique pour tous,
IPT, comme on disait. Et il y avait une autre émission qui s'appelait Micro Ludique, je crois. Où là, c'était un peu le même principe, sauf que les jeux étaient encore plus. Là, on était dans du jeu du genre puissance 4 ou le jeu du pendu. Tu vois, c'était vraiment.
Avant ça, avant Micro Kids, tu as aussi l'émission qui était présentée par Patrice Drevet, donc le papa de Crevette.
Il présentait le mini journal, lui. Il présentait autre chose.
Il y a eu un truc sur l'informatique et sur le jeu vidéo.
Je me souviens plus. Ouais, donc t'avais déjà des émissions qui tentaient de présenter les jeux vidéo sous un aspect positif.
Il y avait, je pensais à ça aussi. Il y avait aussi à la même période Temps X avec les frères Bogdanov qui évoquaient parfois le jeu vidéo, ou du moins la micro-informatique en règle générale, sous un jour plutôt radieux, enfin porteur d'espoir, de révolution technologique. Ouais.
C'est-à-dire que à l'époque, donc c'était vu effectivement comme une innovation, comme la modernité incarnée, tout ce qui était informatique. Les jeux vidéo à la maison, enfin ou sur ordinateur, n'avaient pas le côté sulfureux qu'ils pouvaient avoir en salle d'arcade ou que désormais on peut leur prêter. Et puis, il ne faisait pas encore concurrence à la télé, aux émissions de télé. Donc, on en proposait encore, on pouvait encore en proposer. Mais après, c'est passé.
Mais t'as eu aussi. Il faut pas oublier que derrière Micro Kids, tu as Canal Plus qui a repris Flambeau. C'est Cléo, mais juste avant C'est Cléo, ce qui était vraiment intéressant, c'était Cyber Culture, présenté par Shin Lanzmann, était absolument génial. Cette fille, c'est dommage que tu la vois plus. Elle participait également à un magazine que j'adorais, qui malheureusement a pas fait énormément de numéros, dans lequel collaborait également Ariel Wiseman, un magazine qui s'appelait Univers Interactif, qui était un peu le pendant français de Wired, qui était vraiment très très bon, quoi. Et t'avais vraiment ce truc, c'est l'époque aussi de Canal où tu avais l'œil du cyclone, où tous les ans tu avais Imagina, un spécial Imagina qui durait presque 2 heures avec les meilleurs trucs d'Imagina.
C'était fascinant, cette émission. Je ne la manquais pas parce que il y avait vraiment de quoi rêver. Je suis déçu quelque part qu'à la télévision, enfin à ma connaissance en tout cas aujourd'hui, il y ait plus d'émissions spéciales comme ça sur l'animation informatique, sur les images de synthèse.
Si, tu vas trouver ça sur les chaînes spécialisées type No Life et Game One. Et encore,
sur le service.
Sur Game One, t'as quand même un petit peu de trucs quand même. Tu peux pas tout leur enlever non plus. Pour dire, moi, je découvre ça depuis peu, et puisque jusqu'à présent, j'avais pas la télé sur ADSL. Et depuis peu, bah oui, c'est ça d'habiter à la campagne, monsieur. Là, je découvre et je suis agréablement surpris. Je regarderai pas ça à longueur de journée, mais il y a des moments où tu tombes sur des trucs pas de reportage de fond, faut pas déconner non plus.
Moi, je tombe jamais sur les bons.
Alors, pas mal. Le temps tourne. Donc, juste pour conclure sur la télévision, d'après vous, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le traitement du jeu vidéo par la télévision a pu ainsi évoluer entre les émissions comme Micro Kids, Temps X, C'est Cléo, etc. Et puis le traitement qu'on en fait aujourd'hui, où c'est cantonné à des chaînes spécialisées.
Cherche pas non plus. Le temps que tu passes sur une console, c'est du temps où tu n'es pas dispo pour la publicité.
Donc toi, tu.
Je pense que Enough said.
Il y a vraiment pour toi, c'est vraiment ce critère-là, cet argument-là qui expliquerait du coup la réticence de la télévision à consacrer du temps aux jeux vidéo.
Non, c'est peut-être un peu raccourci comme truc, mais aujourd'hui, tu as tellement de par Internet, de par les magazines, même si c'est beaucoup moins, mais de par Internet, tu as tellement d'informations que le temps qu'ils fassent leur reportage, ils sont déjà obsolètes. Le peu de fois où ils parlent du média jeu vidéo, c'est souvent pour en dire du mal. Par rapport à un fait divers et co, ou alors quand ils en parlent en bien, c'est par rapport à un gros studio, par rapport à une grosse sortie, avec un reportage qui survole et qui a le don de faire bondir 80% des gens sur Internet. Mmh. Et donc aujourd'hui, à force de s'en prendre plein la gueule parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, et Internet étant ce qu'il est aujourd'hui, et le média jeu vidéo de par ses défendeurs et ses pourfendeurs étant quelque chose de vraiment très viscéral, je pense qu'aujourd'hui, ils prennent pas de risque à essayer de faire quelque chose de mainstream. Parce qu'ils ont peur de se prendre une volée de bois vert.
Est-ce que t'es d'accord avec cette analyse, Jacques?
Ouais, je dirais que c'est à peu près ça. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi voir les autres types de loisirs. Enfin, moi, je regarde pas trop la télé en elle-même, mais est-ce que on a des émissions sur le cinéma comme il pouvait y avoir il y a une vingtaine d'années? Il y en a toujours sur le service public, par exemple, ouais.
Oui, il y en a toujours sur le service public, sur France 5, tu as cinéma par Moati qui est plutôt pas mal. Tu en as moins qu'il y a pu en avoir. C'est pareil. Tu as tellement de sites internet aujourd'hui qui sont pointus avec des rédacteurs qui sont ultra pointus, et des émissions podcast ou vidéocast qui sont tellement bien faites que ça ferait double emploi et en plus ça passerait moins bien.
Donc en définitive, vous n'êtes pas pour un retour à la télévision d'une émission consacrée aux jeux vidéo, quel que soit l'angle abordé.
Ouais.
Si voilà. C'est bien fait.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut. Il pourrait plus vraiment faire ça sur l'actualité, quoi. Faut que ce soit autre chose. Moi, je regarde de temps en temps des émissions sur No Life, qui elles sont effectivement plus spécialisées. Ils vont pas forcément suivre l'actualité. Quand c'est sur l'actualité, généralement, je regarde pas vraiment parce que ça m'intéresse pas. Mais il y a des types d'émissions. Bon, là, ça c'est plus sur Game One, les émissions rétro Magic. C'est sur No Life.
Retro
Game One.
Retro Game One.
Il y a Retro Magic sur No Life,
présenté par le professeur Pirou.
Il y a l'émission. Moi, j'aime bien l'émission de Marcus. Je trouve ça chez Marcus.
Chez Marcus.
Moi, je trouve ça sympa. Il y a un côté.
C'est bonhomme.
Il y a un côté partage de canapé.
C'est ça.
Prends une place. Et puis, moi, j'aime bien les délires qui se fait quand il va tester un jeu avec un jeu de catch. Alors, il va se déguiser. Enfin, il y a un côté Wayne's World un peu, je trouve, quand il invite un copain.
Il y a un petit côté ado attardé.
Moi, je trouve ça chiant.
Bref.
Alors, je voulais juste en parler de la télé.
Juste avant que l'on se quitte, puisque.
On parlait de la télé, mais après, on n'a pas parlé de la radio. Hein? Alors, la radio, moi, tous les matins, je me réveille avec la chronique. De Jean Z, je sais plus son nom exact, sur France Info, vers 7h moins 10, par là. Et une petite chronique de 2-3 minutes.
Hein,
oui. Une petite chronique de 2-3 minutes sur, c'est sur le Medi, c'est pas seulement sur les jeux vidéo, hein, ça va être sur les ordinateurs, sur les smartphones, etc. Mais bon, par moment, ça, sur la technologie.
Sur la technologie en général.
Si tu aimes ça, il faut que t'écoutes des clics et des claques sur Europe 1 le soir.
Oui.
Dispo en podcast aussi, mais c'est plus basé sur les réseaux sociaux et l'incidence de ceci. C'est assez bien foutu. Et David Abiker et Guy Berenbaum, ils sont plutôt pas mal.
Et alors, j'ai un autre exemple en tête là. C'était au mois de décembre, la Marche de l'Histoire sur France Inter avait diffusé une émission consacrée à l'histoire des jeux vidéo avec le fondateur de MO5.com. Et ce qui était assez révélateur, c'est que le présentateur, c'est plus Patrice Gélinet, c'est un autre, je sais plus son nom. Comment dire, il mettait en garde en fait les auditeurs. N'ayez pas peur, nous allons parler des jeux vidéo. Enfin, tu vois, nous allons utiliser des termes qui peuvent sembler barbares, mais voilà, on avait cette idée de c'est un monde encore nébuleux pour vous auditeurs de France Inter habitués.
Oui.
Bon, tu vois.
Voilà. On masque la plume, enfin. Oui, oui. Okay. Il y a encore une petite réticence quand même des médias traditionnels, va-t-on
dire. Ce qui est un peu logique en soi, c'est déjà t'as cassé une bonne partie de l'image gamin grâce à un intondu. Et là oui, hein, t'as.
C'est vrai.
Il faut pas se voiler la face non plus. L'époque des Game & Watch, qui était un loisir. Bon, c'était du jeu vidéo. C'est les premières consoles portables, hein, techniquement.
C'est vrai.
T'avais une image du Game & Watch qui était assez sympa. Les gens trouvaient ça. C'était le jeu pour jouer sur les chiottes, hein, un peu.
C'était
inoffensif. Honnêtement, ouais, inoffensif.
Et on est arrivé sur les consoles de salon. Il y avait qu'une seule télé pour beaucoup de foyers à l'époque quand il y avait une télévision. Et donc, en plus, ça cassait la télévision. Tu te rends compte?
Et ça donnait l'épilepsie.
C'est vrai que c'est un peu normal qu'on est arrivé à un truc de défiance par rapport à ça, parce qu'il y avait un gap générationnel qui s'est fait. Ouais, mais va jouer dehors avec tes copains. Ben non, j'ai envie de jouer au Tortue Ninja. J'ai envie de mourir dans l'égout là. Et donc voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu particulier par rapport à ça. Mais même quand tu regardes les premiers téléscores, tout ce qui est les Pong, les vidéopacks, les Philips, les machins qui sont sortis, c'était pas diabolisé comme ça peut l'être aujourd'hui.
Oui, il y avait un côté fascinant peut-être de la nouveauté.
C'était pas du tout répandu dans les foyers, donc.
En France, aux États-Unis.
Oui, mais les États-Unis, on a eu. C'était à part.
On a déjà parlé de la différence de traitement entre les États-Unis et la France, et je pense que c'est sur ce dernier mot que nous.
Mais non, on a encore des trucs à dire.
Tu reviendras.
On n'a pas parlé des produits dérivés, on n'a pas parlé de la musique avec les jeux vidéo. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. Moi, je ne suis pas d'accord.
Sur l'histoire de Biohazard et Resident Evil, pourquoi là?
ça sera pour un
pourquoi
prochain
Biohazard
du Brocast, mais
pourquoi Resident Evil
les meilleures choses.
Pourquoi ne pas parler
fin
de ce magnifique clip de Wintergreen où les mecs vont creuser dans le désert pour retrouver les cartouches d'E.T.
C'est vrai, mais il y a encore plein de choses à dire, mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Aussi, ce Brocast va s'arrêter ici.
Et monsieur Meutefeu, excusez-moi de vous prendre la partie comme ça. Mais il me semble que vous soyez la caution littéraire de ce genre de gros cast. Vous nous avez appâté tout à l'heure en nous disant « Oui, on va parler aussi dans les romans, dans la littérature du jeu vidéo. » Mais quid ? Vous n'avez rien dit !
Et effectivement, je plaide coupable, mais ça sera peut-être pour une prochaine émission, peut-être pour un prochain article, allez savoir. Mais en attendant,
encore
le
du teasing,
temps tourne,
quoi.
Encore du teasing, énormément de projets en cours, énormément de choses à faire. Je ne peux que vous remercier de votre gouaille et de votre présence aujourd'hui dans ce gros cast. Karl, chapeau paye, ça a été un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui.
Bon, on va dire que c'est partagé parce que c'est toi le chef.
Alors, pour se quitter de bonne humeur, je vous propose
un petit gros mix. Non, moi je suis fâché, je suis très chafouin. Non seulement
mais
vous me faites rater un des plus beaux matchs de rugby pendant les Six Nations, pour digresser en toute impartialité avec vous, et en plus, derrière, je me retrouve à ne pas rester sur ma faim.
Mais Karl, ce que je vais vous proposer, ce que je vais te proposer va de suite te rendre de bonne humeur puisqu'il s'agit d'un gros mix du stage de Ken dans Street Fighter 2.
Non,
de
pas
musique
Street Fighter.
Inoubliable s'il en est, mais si tu aimes Street Fighter.
Non, moi j'aime que Killer Instinct.
C'est sur ces mots,
je
c'est
veux,
sur ces
je
mots
veux
et sur ces notes magnifiques que l'on va fermer ce deuxième numéro du gros cast. C'est l'anarchie ici dans le studio de Gros Pixel.
Je ne les tiens plus. À bientôt, chers auditeurs.
À bientôt pour un prochain numéro du gros cast. D'ici là, jouez bien. Au revoir.